À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Alors c'est un thème qui revient à plusieurs reprises dans l'Évangile. C'est comme une spirale. Soit on la prend dans le sens de la confiance, soit on la prend dans le sens de la défiance. Alors c'est à nous de savoir si, dans quel sens nous voulons prendre la spirale. Ce matin, avec vous, je voudrais lire cet évangile à trois niveaux. Le premier, qui est plutôt celui de la relation entre les personnes, entre justement le maître qui s'en va en voyage et ses serviteurs. Le deuxième, c'est plutôt au niveau des idées, des justifications, etc., intellectuelles qu'on peut trouver. Et le troisième, à un niveau plus viscéral, donc cette peur qu'a éprouvé ce troisième serviteur. Donc d'abord, au niveau de la relation entre les personnes. Parce que finalement, c'est le niveau le plus essentiel. Il y a des manières peut-être de lire cette parabole qui conduisent à un contresens. Parce que le but du chemin, ce n'est pas les talents. C'est pas de développer ses talents, c'est pas ça le but ultime en tout cas. C'est un but intermédiaire, mais pas ultime. Le but du chemin, c'est cette communion et cette relation avec le maître. Il n'y a pas besoin de l'évangile pour savoir qu'il faut développer ses talents. À la limite, on peut le trouver, ça fait partie de la sagesse universelle. Mais là, c'est se joue à travers le fait de développer ses talents, cette relation avec le maître, et qui est beaucoup plus essentielle. C'est comme s'il y avait une sorte de triangulation, mais le centre, c'est pas les talents, le centre, c'est cette relation avec le maître. Ça aurait pas de sens de faire fructifier ses talents de manière égocentrique. Alors ça peut être une ambiguïté de tout ce développement personnel, etc. Bien sûr, je suis pour le développement personnel, mais pas centré sur lui-même, sinon ça va pas. C'est pour servir et au bout du compte, remettre le fruit à Dieu. Donc, cette relation, c'est vraiment le cœur. Et d'ailleurs, ces talents, c'est pas d'abord des biens matériels. Alors, c'est une parabole que nous donne Jésus, mais c'est bien de resituer cette parabole. Cette parabole, c'est juste avant que Jésus entre dans sa passion. Donc, les talents que le Seigneur nous confie, c'est d'abord les biens du royaume. Et voilà, et il nous donne l'Esprit Saint pour faire fructifier, justement, ces biens du royaume. Ces dons issus de la rédemption, issus de la mort et de la résurrection de Jésus. Voilà. Et on voit toujours, pour rester dans cette question de la relation avec le maître, quand ils reviennent, tout contents, les deux premiers, ils sont visiblement très heureux de dire « Voilà, tu m'as confié deux talents ou cinq talents, et en voilà cinq autres, deux autres. » Alors, la première chose qu'il dit « Je t'en confierai beaucoup, mais aussi « entre dans la joie de ton Seigneur ». C'est ça comme le fruit ultime, c'est d'entrer dans cette joie du Seigneur, dans cette joie de la communion avec le Seigneur. Et inversement, on voit ce qui se passe avec le troisième serviteur qui joue pas le jeu. Il garde toujours deux comptes bien séparés, le talent du maître et mes affaires à moi. Il s'investit dans ses affaires à lui, mais pas tellement dans le talent de son maître. Il l'enterre et puis voilà, il attend que ça se passe. Mais non, un don que nous avons reçu entraîne une responsabilité. Et on voit que ça ne marche pas du tout la relation avec le maître. C'est un tu accusateur. Tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. Voilà, tu as tout ce qui t'a... C'est vraiment un tu accusateur qui marque vraiment la distance entre les deux et le fruit, en quelque sorte, si on peut dire. Ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Il n'a pas voulu de la relation, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, ce premier niveau, c'est vraiment ce niveau de la relation entre les personnes. Deuxième niveau auquel je voulais lire cette parabole, c'est celui des idées, des justifications. Pour les deux premiers, on a l'impression qu'ils agissent avec spontanéité. Ça leur semble normal, bon, on leur confie ça. Ils ne font pas des nœuds dans la tête. C'est pour eux, c'est une évidence. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Voilà, ils ne se posent pas 5 000 questions. Ils se disent, ils font comme si c'était leur propre bien. Ils disent pas, bon, c'est le bien du maître, voilà. Non, on voit qu'il n'y a pas de division. C'est un peu comme la première lecture, la femme vertueuse. Voilà, il y a une spirale vertueuse qui se met en route et c'est très bien ainsi. En revanche, le troisième serviteur, on voit qu'il y a beaucoup d'idées, de jugements qui viennent interférer. Tu es un homme dur. Et il se laisse mener par un sentiment d'injustice. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. On voit les idées qui doivent lui trotter dans la tête. Et ça engendre une forme de suspicion. Et en ce sens, il est bien l'héritier d'Adam et Ève. La suspicion qu'ils ont reçue du serpent. Oui, non, mais Dieu vous a dit, mais en fait, il est un peu intéressé, ou voilà, il a peur pour vous, ou je ne sais pas. Voilà. Et donc, sa perception du maître est déformée. Il a une conception assez étriquée de la justice du maître. Et du coup, il passe à côté. Peut-être justifie-t-il aussi par ses idées sa paresse. La paresse, vous savez que c'est un des péchés capitaux. Alors, certains parlent plutôt de la sédie, mais en tout cas, c'est le serviteur mauvais, paresseux. Alors, pour donner des justifications à sa paresse, il dit que le maître est mauvais, peut-être. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en lui. Mais en plus, il se perd un peu dans ses justifications, et le maître le prend à son piège. Il lui dit, mais si vraiment tu pensais ça de moi, il fallait que tu agisses en cohérence. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas. Alors il fallait soit cohérent. Mais il raisonne, mais finalement il n'est pas cohérent avec ses idées. Voilà, alors c'était un deuxième niveau de voir un peu, mais c'est important pour chacun d'entre nous, quelquefois des idées qui. Il aurait bien fait de. C'était un peu tôt pour ça, mais d'entendre la parole de saint Paul dans l'Épître aux Romains, ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Alors lui, il s'est perdu dans ses jugements, dans ses sentiments d'injustice, etc. Et puis voilà. Et du coup, ça a justifié sa paresse. Ça, c'est un deuxième niveau de voir un petit peu toutes les idées un peu tordues qui, hélas, peuvent nous parasiter, nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu. L'appel pour une vocation, mais l'appel aussi simplement dans le service, dans l'accomplissement de sa volonté, selon l'idée qu'on se fait de la volonté de Dieu. On y correspond plus ou moins. Et le troisième niveau selon lequel je voudrais lire cette parabole, c'est un niveau le plus viscéral de la peur. Alors, quelle est la peur qui anime ce serviteur? Alors, c'est des suppositions, mais peut-être simplement déjà la peur de ne pas savoir comment s'y prendre, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec. Alors, pour ne pas échouer, il ne fait rien. C'est la meilleure manière de rater, mais quelquefois on n'est pas toujours très cohérent, et il n'est pas du tout cohérent, ce troisième serviteur. Et du coup, la peur l'a inhibé, l'a complexé, l'a paralysé. La peur est une mauvaise conseillère, comme on dit. Je vous lis un extrait du pape François. Le trou creusé dans le sol par le serviteur méchant et paresseux indique la peur du risque qui bloque la créativité et la fécondité de l'amour. Parce que la peur des risques de l'amour nous bloque. Jésus ne nous demande pas de conserver sa grâce dans un coffre-fort. Jésus ne demande pas cela, mais il veut que nous l'utilisions pour le bien des autres. Donc ça peut être une première forme de peur, c'est la peur de l'échec, la peur du risque, là, voilà. Et dont il sert aussi pour justifier sa paresse. Une deuxième peur, peut-être, c'est la peur de se faire avoir, la peur de se faire exploiter. Alors on voit un peu toutes les idées qu'il avait derrière. Oui, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, etc. Et du coup, cette peur fait qu'il veut vraiment garder ses distances, son indépendance. Il ne veut pas prendre le risque de la relation. Et alors que dans notre vie avec Dieu, ce n'est pas un piège quand Dieu veut nous demander de le servir. C'est un honneur qu'il nous fait. Mais selon la manière dont on a les idées plus ou moins bien orientées, voilà, on l'oriente dans un sens ou un autre. Et alors, c'est terrible aussi, cette peur de se faire avoir. Et du coup, on maintient la distance et on n'entre pas dans cette spirale vertueuse. Au contraire, il prend la spirale de la décadence. Et peut-être une troisième peur aussi, c'est la peur de se donner, parce que la peur de se donner implique de se perdre. Alors quand vous envoyez un fichier sur Internet, vous êtes très généreux, mais vous le gardez, votre fichier, en même temps que vous le donnez. Mais quand vous donnez un bien matériel, ben, quand vous le donnez, vous l'avez plus. Et alors la peur de se donner, c'est accepter de se perdre. Et alors Jésus revient souvent, j'ai au moins 5 citations dans tous les évangélistes, sans exception, le disent approximativement: celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. La peur de perdre et la peur de se donner qui sont corrélatives. Voilà, alors toutes ces peurs, peut-être à un niveau un peu viscéral, alors on ne sait pas toujours très bien comment faire avec nos peurs, alors je vais conclure maintenant, mais peut-être laisser faire un peu comme Saint-Pierre quand il est sur l'eau et que ça, voilà, il y a de la tempête, tout ça, il crie « Mais sauve-moi !» Et peut-être nous sommes appelés à crier vers le Seigneur quand nous sommes empêtrés dans nos peurs. Peut-être aussi crier vers le Seigneur pour qu'il nous sauve de ces idées un peu tordues qui finalement nous paralysent dans le don de nous-mêmes. C'est quand même dommage pour ce serviteur. Il y a un beau talent qui lui est confié. Il l'enterre et il continue sa vie comme si de rien n'était. Mais peut-être que ça peut être quelquefois notre cas. Le Seigneur nous fait des dons et nous, on continue notre vie comme si de rien n'était. Et pourtant, sa vie aurait été toute différente s'il avait accueilli ce don. Alors bien sûr, il y a un risque, il y a des peurs à surmonter, etc. Voilà, alors demandons à Marie. Marie, alors là, elle a eu le gros lot, si permettez-moi l'expression. Elle a eu le talent des talents, elle a eu Jésus. Mais ça comportait beaucoup de risques, hein, des risques bien réels. C'était l'inconnu complet. Mais elle a fait confiance. Alors demandons à la Vierge Marie de nous aider à accueillir les talents que le Seigneur nous a donnés et de les faire fructifier. Amen.